On enchaîne.
Avec la première intervention de Emmanuel Parra.
Donc sinon, juste pour le présenter brièvement, donc en fait, vous savez, du coup, j'avais commencé à bosser sur Montaigu en 2001, mais dans le cadre d'une étude pour jeunesse et sport, suite à la phrase définitive de l'équipe de Devilliers qui disait qu'il n'y avait pas de punk en Vendée, enfin il n'y avait pas de rock en Vendée. Et donc du coup, Manu, qui avait une formation à la fois de philosophe, musicologue et qui a une thèse d'anthropologie, et donc du coup qui notamment fait du terrain aux États-Unis aussi, et donc du coup a commencé à travailler, on a repris en fait la recherche sur Montaigu à trois avec Sandrine et Emmanuel. Et du coup, ça s'est fait parallèlement au fait que Emmanuel, à l'époque, travaillait au pôle régional des musiques actuelles, et vis-à-vis avec certains acteurs du pôle, et notamment des acteurs qui avaient un savoir-faire, comme on en parlera cet après-midi, un savoir-faire dans les archives. Du coup, il s'est mis à commencer à travailler sur Montaigu avec cette optique-là. Et après, plus largement, il avait plein de choses à dire avec son œil acéré d'anthropologue. Et voilà. Et donc, du coup. Donc du coup, c'est aussi un expert du travail de terrain sur Montaigu. Je te laisse la parole.
Merci. Oui, donc tu as commencé à introduire ce que je voulais dire pour commencer. Effectivement, punk rural, punk urbain, le cas de la scène de Montaigu, c'était un petit peu le projet de relier anthropologie et puis les données de l'enquête qu'on a fait, surtout en 2012 en fait. L'été 2012, où on a enchaîné pas mal d'entretiens avec Sandrine et Jérôme. Et effectivement, quand j'ai travaillé au pôle régional musique actuelle entre 2009 et 2013 et qu'on commençait à traîner un peu à Montaigu, ça me faisait réfléchir parce que dans ma thèse, j'avais travaillé avec des ethnologues assez chevronnés, Jean Jamin, Patrick Williams, fan de jazz, mais aussi qui avaient fait des terrains classiques en Afrique, etc., mais qui avaient aussi passé du temps dans leur propre région d'origine. Notamment, mon directeur de thèse, après son enquête sur le culte du secret au Bénin, était revenu enquêter sur les chasseurs de Picardie. Et donc, voilà, ça me travaillait un petit peu. Et moi-même, je venais d'un milieu très proche, puisque là, j'ai refait le voyage ce matin de Beaupréau à Montaigu, dans les Mauges. Et voilà. Alors, quand j'étais jeune, il n'y avait pas la même dynamique associative rock, mais en même temps, on était un petit peu dans les mêmes contextes. On avait monté une asso et on se définissait en termes de rural power. Et donc c'est pour ça, je me disais, voilà, comment on vit le rock en milieu rural, même si vous avez compris que Montaigu, c'est pas la pleine campagne, c'est une ville en fait, c'est une petite ville, mais qui est liée quand même à un contexte rural, puisque les champs sont immédiatement à portée de voiture. Et effectivement, faire l'anthropologie du proche, c'est une tâche réputée difficile, puisque l'anthropologie, c'est une science de la comparaison entre l'ailleurs et l'ici, l'exotique et le proche, et faire l'anthropologie du proche suppose de faire surgir une forme d'étrangeté dans son chez-soi, qui n'est pas forcément une chose facile, parce que les lignes de force, les structures, sont tellement intériorisées qu'elles paraissent naturelles et elles sont difficiles à repérer. Donc, sans vraiment prétendre être parvenu à une anthropologie du punk à Montaigu, j'aurais pas cette prétention. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là aujourd'hui ? Je vais essayer de voir ce qu'ont dit les anthropologues français sur les subcultures, et ça m'a été facilité par le fait qu'ils sont trois. C'est-à-dire que c'est assez pauvre. C'est plutôt la sociologie, mais évidemment le lien entre sociologie et anthropologie est très, très fort. Mais je me suis dit, je vais regarder un peu ce que l'anthropologie française a su dire sur les subcultures et sur le punk en particulier, quels concepts elle a mobilisés, est-ce qu'elle les a adaptés en provenance de terrains plus lointains. Et je distinguerai, l'approche anthropologique du punk à Montaigu. Donc comme je l'ai dit, je vais réfléchir sur des données qualitatives, des entretiens et des archives, donc dans l'enquête qu'on a fait avec Sandrine et Jérôme. Je citerai une femme et trois hommes que j'ai anonymisés. Ils pourront se livrer au petit jeu de se reconnaître, s'ils sont dans la salle. Sur cette tradition anthropologique française, je distingue trois moments. Donc l'hypothèse structuraliste de Lévi-Strauss dans les années 60, un moment sémiologique avec les travaux de Marie Rouet, sur lequel je reviendrai brièvement. Et puis pour terminer, le regard de l'anthropologie qu'on pourrait qualifier d'européaniste avec le travail de Daniel Fabre. Donc Lévi-Strauss et Jean Monod, qui étaient... ça mange un peu, mais enfin, je pense que c'est lisible. Ouais. Premièrement, bon, c'est vrai que c'est quoi la différence entre sociologie et anthropologie ? On n'arrive jamais vraiment à le savoir nous-mêmes, mais ça s'explique historiquement par une division du travail, les anthropologues travaillant sur les sociétés traditionnelles, premières, primitives, comme on les appelait avant, et les sociologues s'occupant des sociétés industrialisées. Et dans les sociétés industrialisées, il y a beaucoup plus de divisions, la société est beaucoup plus segmentée. Donc les sociologues travaillent plutôt sur, expliquent le comportement social des individus en les rapportant à des variables comme la classe, et toute une série de choses. Alors que l'anthropologie essaie plutôt d'aborder la société comme un tout, de la comprendre de manière peut-être un peu plus holistique. Et Lévi-Strauss, lui, il l'avait fait dans les années 30-40 sur les Indiens du Brésil. Hein, vous pensez par exemple à Triste Tropique. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui-même a aussi écrit sur l'Europe et sur la France. Et notamment un super texte qui s'appelle La leçon de Noël, où il réfléchit sur des cathos qui se mettent à brûler une énorme effigie du Père Noël devant des enfants traumatisés à Dijon en 51. Et il arrive à dire des choses aussi sur la France, donc sur sa propre société. Et dans les années 60, il se met à discuter avec la directrice du magazine Elle, qui s'appelle Hélène Gordon-Lazareff, et d'une possibilité de faire une anthropologie des bandes de jeunes. Et ça va donner lieu à une recherche qui va être effectuée par un de ses élèves, Jean Monod, qui va donner le livre « Les Bargeaux, essai d'ethnologie d'une bande de jeunes ». Jean Monod, 40 ans après, se rappelle un peu l'origine de ce projet, et le voilà qui dit, en se remémorant en fait les discussions qu'il y avait à l'époque entre Lévi-Strauss et la directrice de Elle, Il apparaissait piquant d'étudier les blousons noirs comme des sauvages. Le jeu semblait amuser Lévi-Strauss, qui me dit avoir éprouvé, voyant des jeunes au drugstore des Champs-Élysées, l'impression d'une tribu aussi étrange que les Bororo. L'idée derrière ça, c'était de constater que le processus d'uniformisation de la société occidentale devait nécessairement conduire à des formes d'explosion et de reconstitution de nouveaux clivages entre les générations, ou parmi une même génération. Je cite à nouveau, comme s'il y avait une limite à l'uniformisation liée à une nécessaire diversité qui aurait fonctionné comme une loi équilibrante des sociétés. Alors ce qu'on voit poindre ici dans les années 60, c'est la prise en compte de terrains qui allaient donner lieu de l'autre côté de la Manche au courant des culturales, je te dis. Et évidemment, les Stuart Hall, les Dick Ebdisch, comme je citais tout à l'heure, lisent intensément les écrivains, les anthropologues français, Lévi-Strauss, Roland Barthes. Donc il y a un aller-retour, mais en France, le terrain a moins été pris d'assaut comme il l'a été en Angleterre. Et c'est vrai qu'à l'époque, on est loin de conceptualiser l'idée de subculture. Jean Monod nous dit, dans les années 60, il ne serait venu à l'idée à personne, je pense, d'aborder la jeunesse comme le lieu d'une nouvelle culture. Pourtant, on commençait à en observer les retombées, style vestimentaire, préférence musicale favorisée par le développement de l'industrie du disque. C'est ce que Edgar Morin, en pionnier, avait fait en parlant d'une culture yéyé. Alors Jean Monod mène l'enquête, il commence par s'acheter une mobylette et il va étudier les blousons noirs, mais phénomène qui est déjà sur le déclin, hein. On dit que les blousons noirs c'est plutôt 57-64, donc une première subculture française. Et alors il a donc cette hypothèse de départ, l'hypothèse de départ, les cultures jeunes, société dans la société, qui auraient leur propre structure, leur propre rite et mythe, qu'il s'agirait de comprendre et de dégager. Et le résultat ne se révèle pas aussi spectaculaire que prévu. Les bandes de jeunes n'ont pas le monopole des traits distinctifs qu'ils leur attribuent, la culture de la joute verbale, l'argot, l'homosexualité latente, d'une sociabilité exclusivement masculine. On tape sur les PD, en même temps on n'est que entre mecs, entre nous. Et il y a une fluidité en fait, qui démystifie la cohérence du fait social total recherché. Alors Jean Monod nous dit, quand j'ai présenté mon travail au Collège de France, au séminaire de Lévi-Strauss, Jean Pouillon, alors directeur de l'Homme à la revue, était enchanté par cette fluidité, alors que Lévi-Strauss semblait un peu déçu. N'y a-t-il que des mœurs, disait-il ? N'y a-t-il vraiment pas de rite ? Et en fait, on se rend compte que c'était beaucoup plus informel que ce à quoi Lévi-Strauss s'était attendu. Et moi aussi, rajoute Jean Monod. Et en fait, il considère que le véritable mythe, il n'est pas à étudier parmi les jeunes, c'est plutôt le mythe de la jeunesse qui se crée dans la société. Le véritable mythe est plutôt au niveau de l'imaginaire collectif qui essentialise le mythe négatif du voyou. Et ce mythe est lui-même intériorisé parallèlement par les dominés pour le substituer à la violence vécue de la domination. Quelque chose que j'ai pu étudier plutôt au niveau de la culture du gangsta aux États-Unis dans le rap. Alors, justement, je me suis demandé au niveau local s'il n'y avait pas aussi ce même processus de mythification du passé, mythification du punk. Et c'est vrai qu'on entendait beaucoup parler du mythe de la forêt de Grala, qui est à une dizaine de kilomètres d'ici, à Chavagnes-en-Paillée, je crois. Hein. Et c'est vrai que la culture punk fin 70, début 80 a beaucoup marqué l'imaginaire des plus jeunes générations comme une génération perdue et radicale, quitte à exagérer peut-être dans l'imaginaire de ceux qui allaient monter le collectif dans les années 90, la radicalité et l'anomie de la culture jeune. Alors, voilà, c'était des gens, des milieux ouvriers pour la plupart, mais il y en avait aussi qui étaient des superfils à papa, des bourgeois avec des vieilles histoires pas cool, comme ce qui se passait dans la forêt de Grala avec des morts, machin. Même nous, on connaît l'histoire par cœur sans l'avoir vécu, me dit un de nos enquêtés né en 78. Il y a une histoire de mœurs dans la forêt de Grala et ça nous a marqué le mec qui s'est fait immoler, qui est décédé là-bas pour des histoires de dope dans les années 80. Un mec qui vivait à Montaigu, je sais pas si tu vois, c'est une histoire qu'on nous a répétée. C'est un peu le mythe de vieux tox, zikos, barré, fils à papa, bourgeois, des grandes entreprises de Montaigu qui ont toujours été couverts par leurs parents. Il n'y en a jamais un qui a été jugé en tôle, et ça, c'est un des gros trucs. Tu associais cette histoire au milieu punk ? Ça, c'est l'interrogateur. Ah, c'était nous. Je l'associais après coup, parce que moi, quand j'étais jeune, je ne savais pas, mais c'était un peu ça. C'était pas clair. Donc on voit, là, il y a un côté un peu mythique ou mythologique de la reconstruction fantasmatique du passé, alors que le festival de Grala, alors là il ne nous parlait pas de Grala Stock, qui est un des festivals qui est des premiers gros concerts dans le début des années 80, hein, c'est 84, 85, 86, je me décale peut-être d'un an, qui semble plutôt un festival bon enfant. On a collecté depuis des infos là-dessus, voilà, qui était plutôt organisé par des hippies en fait, voilà. Mais qui accueillait évidemment les punks. Voilà, c'est marrant parce que Grala Stock, c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, au Lunanthrope 20 ans plus tard. On prévoit un festival où il y aura 500 personnes et il y a 3000 personnes qui débarquent. Ils ont été submergés comme les Lunanthropes l'ont été en 2002. Alors, deux remarques pour ce premier moment. Les blousons noirs, les bandes de jeunes, c'est vraiment un phénomène urbain. L'ethnologie de la France, qui se développe par ailleurs, ne s'intéresse, elle, qu'aux cultures traditionnelles des campagnes, n'envisage pas du tout le caractère positif ou historique des cultures médiatiques. Donc ça, c'est une problématique tout à fait française. Et puis, on peut noter aussi une forte distance sociale entre les anthropologues et les sauvages, les nouveaux indiens des banlieues ouvrières parisiennes. Alors, on va arriver au deuxième moment, et cette distance va se réduire petit à petit. Et ce que je peux dire aussi, c'est que l'anthropologie française, finalement, va évoluer jusqu'aux années 2000 vers toujours moins d'essentialisation de ces nouveaux indiens. Alors, le deuxième moment, ouais, une sémiologie du punk, pourrait-on dire, avec deux articles, Yves Delaporte, Teddy, Rocker, Punk et compagnie, quelques codes vestimentaires urbains, qui commence par constater, donc article paru en 82, les costumes, il s'intéresse voilà, à l'habit punk. Les costumes contemporains semblent être restés assez largement à l'écart de l'investigation scientifique. Il y a de quoi étonner, fait social total, l'habillement n'a rien perdu de l'importance qu'il avait dans les sociétés traditionnelles. Alors, bon... L'article n'est pas génial, on s'est rendu compte que c'est des données de seconde main. Et puis c'est un peu, voilà, il fait son marché dans les tribus, les rastas, les pirates, les punks, etc. Mais on sent qu'il n'y a pas une connaissance très précise et il voit ça un petit peu de loin. Mais il y a quelques hypothèses intéressantes, notamment sur l'habillement, parce que en fait, c'est des Yves Delaporte et puis Marie Rouet, qu'on citera tout à l'heure, sont tous deux spécialistes du costume lapon, degré zéro de la sémiologie, parce que chez les lapons, tout le monde s'habille pareil, qu'on soit chef ou tout en bas de l'échelle sociale. Et il termine son article par une remarque qui peut nous intéresser sur la question du punk rural. C'est qu'un problème intéressant est celui du devenir de ces codes liés au milieu social précis. La grande ville anonyme avec ses cafés, ses lieux de rendez-vous, ses boîtes, ses salles de concert. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sont adoptés en province ? Et Delaporte finit par poser l'idée que bah, plus on est loin de Paris et de l'anonymat, plus le costume punk a moins besoin d'outrance. Et en fait, on ne peut pas être habillé comme un punk à Brest en 77, à moins d'être pris complètement pour un fou, d'accepter d'être pris pour un fou. Et c'est même plus de la provocation tellement c'est la planète Mars qui débarque en quelque sorte. On ne peut même pas provoquer en étant habillé punk, donc il suffit d'avoir un petit badge nos futurs pour faire le même effet que d'avoir le costume complet au hall de Paris. Alors je me suis posé la question pour Montaigu sur le look. Bon, c'est aussi grâce au programme Alternarchive, au travail de Titouan, de Mélissa, de tout le monde ici, puis notre travail. Donc le cuir semble être de mise hein, chez Antirouille. Un concert au foyer des jeunes au milieu des années 80, donc même voilà la rage du chanteur torse nu, bon, est bien présente. Est-ce que les gens sont lookés? Il manque, bon, il faudrait continuer le travail. Un petit peu, dans les récits qu'on a, c'est vrai qu'il y a quand même aussi l'impression que quand les punks de Nantes descendent, ils impressionnent aussi les montacutins par leur dimension davantage lookée. D'ailleurs, il faut monter à Nantes pour s'acheter un cuir, Dixit Jean Rochelet du groupe Antirouille. Voilà, à la salle des fêtes cette fois-ci. Et puis un autre groupe, les Néfastes, dont on parlera ce soir. Là, il y a un côté aussi quand même bien New Wave. Voilà, il y a un peu ce look qui apparaît. En même temps, quand ils sont dans le privé, les vieux pulls en laine ressortent. Là, ils enregistrent, il n'y a pas de public. Il ne faut pas impressionner le public ou les minettes. Et donc, on est à La Zone, un studio, je ne sais pas où c'est, peut-être on le saura plus tard, en octobre 1983. Voilà. Alors, Marie Rouet, qui, elle, a fait une... de l'ethnographie beaucoup plus sérieusement que Yves Delaporte. Elle a publié pas mal d'articles qu'on a redécouvert, que Jérôme a fait redécouvrir. On citait le volume tout à l'heure et Jérôme, tu as fait l'entretien avec Marie Rouet dedans, donc je recommande chaudement de retrouver, ça permet de retrouver ces articles, notamment Assurer son cuir ou La punkitude, un certain dandisme, qui sont vraiment assez précis et très, vraiment assez passionnants. Alors là, la distance sociale avec le milieu observé s'amenuise. Les punks, finalement, c'est mon frère, c'est ma sœur, en l'occurrence c'est sa sœur, qui lui fait le lien avec le milieu. Et puis c'est son milieu d'origine, elle est proche des punks bretons montés à Paris en rupture totale avec leur milieu familial, de Plougastel, d'Aoulas ou de Brest, qui vivent vraiment les années héroïques du punk 1977. Et elle va s'intéresser en anthropologue à une analyse structuraliste sur les termes de la relation entre les éléments de la subculture punk et les autres subcultures. Si vous voulez, Lévi-Strauss disait qu'il ne faut pas s'intéresser au sens des mythes et ce que nous disent les autochtones, comment leur interprétation propre d'une histoire. Non, il faut réduire l'histoire à des schémas et c'est les liens d'opposition qui forment la matière première de l'analyse structuraliste. Autrement dit, c'est une des grandes avancées de Lévi-Strauss, c'est que la pensée humaine travaille sur la binarité, l'opposition, et c'est comme ça qu'on peut véritablement comprendre les sociétés. Et donc elle l'a appliqué au milieu punk, avec une thèse, si les punks se sont... Alors, qui ne va pas vous paraître véritablement nouvelle, mais c'est la manière dont on l'a démontré qui est intéressante. Si les punks sont engagés aussi radicalement dans la voie du nos futurs, c'est pas seulement par réaction à la société capitaliste en crise des années 70, mais par souci de distinction avec la subculture qui les a immédiatement précédés, des babacools. Or, alors ça on le sait, hein, évidemment, c'est l'inverse des babacools et punks, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le détail, ça marche très très bien, puisque cette opposition s'est exprimée à tous les niveaux du code. Donc elle produit ces tableaux sur les vêtements, matières premières, formes, maquillage, coiffure, impression générale. Alors, je passe un peu vite, vous irez retrouver cet article, il est en ligne d'ailleurs, Punkitude, un certain dandisme, sur les modes de vie. Sur les drogues, les boissons, mais c'est vrai que sur les drogues, elle est extrêmement précise jusqu'à retrouver les marques de médicaments qu'on utilisait, etc. Sur les valeurs, mais elle parle jamais des valeurs, elle parle plutôt des comportements, et pour terminer sur les valeurs, opposition entre la mort de la nature, le dédain de la nature, hein, comment les punks adoraient les sauces fluo de hamburger. Donc et voilà, on parlait des écolo-punks tout à l'heure qui sont arrivés un petit peu après. Justement, cette opposition entre les punks et les hippies, alors c'était là le petit passage audio que je voulais, c'était l'enregistrement d'un témoin qui est né en 1962 et qui lui appartenait, alors c'était un entretien croisé qu'on a fait entre un punk né en 68-69, voilà, et un baba né en 62 et qui était assez marrant, quoi. Donc vous retrouverez ça plus tard sur Alterne Archive. Mais bon, en gros, ils disaient, mais non, on était potes. Mais il n'y avait pas de problème entre les babas et les punks. Les punks nous défendaient contre les casse-couilles de Kugan, les hardos, qui venaient nous emmerder. Nous, on n'aimait pas la violence, mais eux étaient capables de jouer des coudes. Et c'est vrai que la violence était présente, hein, on a pas mal de récits là-dessus. Une violence qui a disparu de la fin du XXe siècle, mais quand les mecs de Vertu descendaient, effectivement, ça pouvait chauffer. Donc voilà, on voit bien que l'adaptation des analyses de Marie Rouet directement sur le cas montacutin pose problème, et au contraire, il semblerait plutôt y avoir des alliances subculturelles entre la 4L hippie et la R12 punk. Alors je suis pas très sûr de la R12 punk, si c'est plutôt la R12 et plutôt hardos ou plutôt punk, bon, il faudra continuer à travailler là-dessus, mais en tout cas très clairement, la 4L, c'était la voiture des hippies qui a servi à, voilà, c'est à coup de 4L comme ça qu'on a monté la scène du Graal. nous explique cet informateur. Bon, au-delà de la blague, le premier point, enfin le deuxième point que je voudrais, sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est que l'adaptation des modèles de l'observation anthropologique effectuée dans la littérature au cas montacutin, c'est trop avec des gros sabots, quoi. Il faut aller justement plus dans le détail. C'est ce que je vous propose de faire pour terminer. Mais évidemment, l'idée que un punk, c'est comme si, c'est comme ça, ça peut pas saquer les hippies, etc. Dans un contexte voilà local, ça perd un peu de sa pertinence. Alors, tout se passe comme si le milieu contre-culturel, appelons-le contre-culturel, parce que évidemment, faut pas fétichiser le punk. Quand on s'intéresse à Montaigu, on voit que le terme punk ne caractérise pas l'ensemble de la dynamique associative. On est plutôt dans l'alternatif, le contre-culturel. Et tout se passe comme s'il y a évidemment tous les marqueurs d'une forte distinction vis-à-vis du courant dominant. C'est-à-dire que le milieu associatif montacutain est repéré comme les drogués, les jeunes. Il y a bien ces marqueurs classiques de la culture alternative, mais il y a aussi plein de marqueurs, et je terminerai là-dessus, de continuité. C'est-à-dire que là où les punks de Plougastel d'Aoulas arrivent à Paris, sont en rupture totale avec leur milieu d'origine et n'imagineraient pas vivre leur punkitude sur place, on voit qu'à la même époque à Montaigu, eh bien en fait c'est possible et il n'y a pas des punks partout en Vendée. Il n'y en a pas à Cugan, il n'y en a pas aux Herbiers, il y en a à Montaigu. Donc c'est un phénomène local, mais on peut vivre sa punkitude sur place. Et d'ailleurs, les acteurs de l'époque sont toujours sur place. Donc voilà ces différents marqueurs. Donc je vais aller très vite. Les looks, bon, le dénigrement, la stigmatisation extérieure, ça c'est les relations avec la mairie, la rue des drogués, hein, celle qui relie le bebop au tribal, etc. Alors on a des choses assez intéressantes. Le son fort comme rituel ordalique. Voilà un des interviewés, voilà. Qui raconte les premiers concerts d'Arsenic. J'étais les voir en spectateur, je sortais très peu. J'ai dû faire mes premiers concerts au foyer des jeunes. Ils sont fous de mettre la musique aussi fort. La douche froide du son, qui est un des marqueurs. Voilà, on est dans un autre espace qui se construit voilà, par ce genre de dispositif matériel. Le surnom, quasi obligatoire pour être identifié comme faisant partie du groupe. Tout montacutain qui fait partie de la dynamique associative possède son surnom, ou alors un prénom assez bizarre pour que ça suffise. Le caractère fermé du groupe pour l'extérieur, même si les gens du collectif ont l'impression d'être super cool, on vient leur rappeler régulièrement que finalement, quand on est à l'extérieur, c'est pas facile de rentrer dans le collectif. Donc il y a bien l'aspect d'une société fermée à l'intérieur. Tu dirais que c'est fermé quand même pour un étranger qui arrive. Nous, on se trouvait super ouverts. Mais il y en a qui nous disaient, mais vous vous rendez pas compte, un mec qui connaît pas, rentrer à Lego Bulle, comme ça, bonjour, j'ai des idées, mais vous hallucinez complètement les mecs, c'est private total le truc. Ah bon ? Voilà. Je vais un peu vite sur les verbatims, parce que je vais conclure pour pas monopoliser la parole. Le refus de la normalisation, on est dans une salle qui organise plus de 100 concerts par an et qui n'a toujours pas de licence 1, enfin qui n'en aura pas, je suppose. Ça reste quelque chose d'important, qui continue à programmer en été, alors que normalement on prend des vacances. Et puis évidemment la dimension politique de l'activisme culturel, hein, voilà, la liste de poils à gratter dont on pourra reparler en 2002. Et puis le moindre dérapage humoristique sur Internet à la mairie, huissier sous clé, paf. Il y avait un mec qui était un peu d'arsenic à l'époque, il a fait une photo du maire avec une grosse picouse dans le cul, huissier, stocké sur disque, scellé, tout le bordel. Pour conclure, voilà les éléments plus spécifiques au milieu rural. Ce qui nous a frappé d'abord, c'est Alors j'en ai listé trois, les relations de parenté entre acteurs, les valeurs alternatives qui débordent la culture rock, et ce qu'on pourrait dire, pour terminer, l'encastrement des valeurs alternatives dans les structures sociales préexistantes. On peut en citer hein, l'associationnisme sportif, l'éduc pop, les réseaux de sociabilité adolescente rurale comme les conscrits, et la solidarité villageoise, et le respect du calendrier festif traditionnel, pour employer des gros mots. Alors les relations de parenté entre acteurs, c'est les familles, et ça c'est super important, on en reparlera plus tard. Les Coutons, les Evelins, les Brosseaux, et qui parcourent, voilà, qui permettent la transmission. Et c'est là aussi qu'on est punk ou on est alternatif, mais non pas de père en fils, mais de frère en sœur et en frère. Et entre cousins. Voilà. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Voilà, les Boursiers, les Terriens, les Véaux, les Perrins. Et effectivement, je pense que ça, c'est un marqueur qui différencie, parce qu'on reste sur place, et donc les réseaux de parenté sont exprès. Important pour comprendre la dynamique. La transmission familiale, ça se traduit par le fait que c'est les grands frères qui initient les petits frères au rock. les valeurs alternatives qui débordent la culture rock. Alors ça, c'est Jérôme qui avait bien montré ça, hein, sur le rapport entre éduc-pop et punk. Et donc finalement, le rock devient quelque chose pour vivre une marginalité, mais qui peut résonner dans d'autres contextes qui, cette fois, ne sont plus du tout rock. Et ce qui permet à des gens qui n'ont pas les mêmes goûts musicaux de se retrouver sur des valeurs communes ou des habitudes communes et de finalement de bien s'entendre. Bon, là, c'est plutôt une citation sur l'importance de la démocratie participative dans la construction des programmations, qui fait que, voilà, ce qui fait le sel des AG d'Arsenic. Et puis, le côté, voilà, fuck the rules, DIY, n'est pas que dans le rock, il est aussi dans l'animation. Hein, le pire, c'était les voyages à l'international au début des années 90, sans autorisation parentale. On en reparlait derrièrement. Animateur pas payé, pas déclaré, pas emmerdé, c'est pas mal ça, non. Voilà, donc cette énergie-là, elle précède, en fait, elle préexiste au rock et elle va être reconvertie dans le rock. Voilà. Puis là, c'est une citation sur le fait qu'on ne pouvait pas aimer du tout la même musique et construire des choses ensemble, parce qu'il y a quelque chose qui soude les gens, qui dépasse la seule esthétique. Et donc, pour conclure, voilà, l'encastrement de ces valeurs alternatives dans les structures sociales préexistantes. Alors, ayant débordé, je vais aller vite, mais c'est vrai que des trucs comme la Jadam ou les conscrits, donc, c'est des trucs qu'on retrouve partout en campagne. Jeunesse alcoolique, droguée, anarchiste, monte à cutaine, mais 10 bandes plus loin, on a la jeunesse régulièrement bourrée de je sais pas quel bled, voilà, la Jam et tout ça. Et ça, c'est des trucs plus anciens. Des trucs plus anciens, mais qui créent une sociabilité qui va se reconvertir dans le rock. Voilà, des habitudes aussi de financement participatif, comme la tombola, qu'on ne trouve pas en ville, mais qui sont bien présents pour combler les déficits des festivals. Voilà. Et puis le calendrier festif traditionnel, alors c'est dit un peu exagéré, mais effectivement, on voit que les concerts sont organisés à la Saint-Jean, au solstice d'été, non, c'est la fête de la musique. Les concerts de Noël, qui sont importants, c'est parce que les gens se retrouvent au village, à la ville, à Montaigu, après les études et tout, donc ça s'explique par un contexte étudiant, mais en même temps, on se rend bien compte que voilà, la saisonnalité des fêtes, eh bien, qui était préexistante au mouvement rock, est reconvertie de cette manière-là. Le Père Noël crado des fêtes de Montaigu. Et c'est pour ça que je voulais conclure sur Daniel Fabre, et j'espère ne pas avoir été trop long, mais je... Ouais, j'ai fait 25 minutes, ça va. Rock des villes, rock des champs. Ce qui me semble plus intéressant, finalement, on est parti de l'idée que les punks, c'était voilà, les nouveaux Indiens qui habitent dans la ville. Et on peut se rendre compte aussi que, bah, finalement, le rock s'est intégré à des structures sociales préexistantes et a été adapté voilà, à un contexte local. Et c'est ce que fait Daniel Fabre quand il se rappelle l'arrivée du rock'n'roll dans sa campagne de la Montagne Noire dans le sud-ouest de la France. Et... donc c'était l'été, il vivait le rock dans un contexte rural, et l'hiver, il vivait le rock dans un contexte urbain. Et il arrachait des sièges, il vivait ça, comme on raconte dans les bouquins, au concert de rock l'hiver, alors que l'été, c'était inscrit dans des rituels extrêmement anciens, et ça, finalement, le rock n'avait aucun problème à se couler complètement dans les structures sociales plus traditionnelles. Donc voilà, ça fait des pistes de recherche pour continuer sur cette réflexion sur l'anthropologie du punk en milieu rural. Je vous remercie de votre attention.